France Musique. Les grands entretiens, Corinne Schneider.
Je m'appelle Elena Bashkirova. Je suis née à Moscou. Je suis musicienne, pianiste.
Elena Bashkirova, on sait votre implication à Jérusalem avec la création de ce festival de musique de chant, festival international qui aujourd'hui est une des activités artistiques les plus importantes du pays. En 2018, vous avez reçu cette distinction docteur honoraire de l'université Ben Gurion. Quel est votre lien avec cette université?
J'ai pas de lien avec cette université, mais vous savez, c'est un tout petit pays quand même. Ben Gurion Université, c'est une très grande université, surtout ce qu'il y a médecine, mathématiques, les sciences. Elle est énorme, ils ont des prix Nobel là-bas. Quand j'ai accepté ça, j'ai compris qu'ils m'ont donné ça à cause de le festival de Jérusalem, bien sûr, comme récompense un tout petit peu pour la culture. Parce que normalement, il n'y a pas grand-chose de culture là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a donné la robe et le chapeau. J'ai mis tout ça et j'ai vu les gens qui étaient avec moi et j'étais très humble. J'étais surpris d'être là. Moi, j'étais à côté de ces gens qui ont énormément impact sur les vies humaines, des millions, par exemple, pour la nourriture, pour les médecines, tout ça. Bien sûr, la culture. Vous savez, surtout maintenant, dans le temps de Corona, on sait à quel point la culture est importante, mais elle est en danger aussi. Je vous donne un petit exemple. En 2011, il y avait un petit fenêtre de possibilité d'aller à Gaza. On ne pense pas à Gaza. Et, musique, ça, c'est rien à voir, hein, Gaza. Mais mon mari, bien sûr, il est quelqu'un qui prend les grands risques, mais il fait ça. Alors, il a fait un petit orchestre et on est allé à Gaza avec énormément d'aventures. C'était le jour où Bin Laden était tué. Alors, on ne savait pas si le concert va être lieu. Alors, le concert était lieu. Il avait là-bas un monsieur qui est venu après ce petit concert. Il a dit « Merci de nous apporter la musique. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour nous. » Et on a demandé « Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est la chose la plus importante ?» Parce qu'il a dit « Vous savez, on habite ici, on est complètement coupé du monde. On nous envoie la nourriture. On nous envoie aussi les médicaments et tout ça. On a ça. Mais ça, on envoie aussi, vous savez, pour les animaux dans le zoo. Nous, on est les êtres humains. Vous, avec votre musique, vous nous avez fait sentir qu'on est les humains. On a besoin de ça. Voilà. C'est ça. Et l'impact de la musique sur les gens, on voit qu'on n'a pas besoin seulement les choses matérielles. On a besoin la vie. On est êtres humains. On a besoin la culture. C'est notre âme a besoin. Comme ça, ce qui fait de nous les êtres humains.
Elena Bachkirova, votre vie, votre carrière et votre vie intime, personnelle et musicale a été traversée par de magnifiques rencontres. Mmh. Et vous les évoquez souvent, celle de Tchelibidak, par exemple. Il y en a d'autres, mais on pourrait commencer par Tchelibidak.
Vous savez, ça, il était très important dans ma vie. Il m'a aussi donné encouragement. Parce qu'on a vu beaucoup, Daniel a beaucoup joué avec lui, et une fois, il m'a demandé, toujours très 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 gentil avec moi, il m'a dit « Hélène », il m'a toujours parlé français d'ailleurs, « Hélène, mais vous, vous ne voulez pas jouer pour moi ?» Ben je dis « Non, mais écoutez, maestro, vous jouez avec Michel-Angelo, avec Daniel, tout ça, ça. Moi, je suis très contente d'être là, écoutez. Mais non, venez ici, jouez pour moi, je pense que vous devez être très bien. » Ben je dis « Mais pourquoi vous pensez comme ça ?» Ben, il a dit « Je connais Daniel très bien depuis son enfance, il ne serait pas avec quelqu'un qui n'est pas bien. » C'est la logique. Bon, d'accord. Ok, alors je me suis dit, ok, je veux jouer quelque chose. Et j'ai fait une vraie, comme ça, dans la salle. Il était dans la salle, j'étais sur la scène. J'ai joué pour lui, il m'a aimé. Il a dit, toi, bien sûr, on va faire, c'est très beau ce que tu fasses, on va faire les variations symphoniques de César Franck.
Oh.
C'est une magnifique œuvre, magnifique. Alors il m'a fait apprendre ça. Et c'était dans 2 ans, il m'a donné la date à Munich, dans 2 ans. Et j'étais ravie. Mais j'ai jamais joué, alors je commençais un tout petit peu. Il est venu à Paris plusieurs fois. La première fois, on a passé 2 heures sur les 8 premières mesures. C'était incroyable, les leçons qu'il m'a données. Alors, il est venu plusieurs fois, comme ça, on a vraiment appris la pièce. Et après, comme ça, à peu près une demi-année avant le concert, j'ai commencé à devenir un peu nerveuse que je joue la pièce que j'ai jamais joué avec l'orchestre et tout de suite avec lui, même si je savais exactement ce qu'il faut faire. Mais ici, là, c'est quelque chose qui est pas rationnel, mais cette nervosité. Alors, j'ai essayé de me obtenir un petit concert dans une petite ville. Et j'ai trouvé une toute petite ville, mauvais orchestre, mauvais chef.
En Allemagne?
Non. On était à Munich, juste à ce moment-là, on l'a retrouvé. Hélène, comment ça va? Et le Franck? Ça développe. Ben, je dis oui, tout va bien. Et j'ai entendu dire comme ça, comme vous savez, comme dans les bandes dessinées, on a le bubble comme ça.
Oui, la bulle.
Le bulle, tout un coup, dans le bulle. Et déjà le texte. Et oui, je m'organisais de jouer ça quelque part avant ça. Et là, pardon, vous le jouez? Où est-ce que vous le jouez? Alors, et après, il a tiré de moi tout ce qu'il voulait savoir, dans quelle petite ville, avec quel chef. Et c'était terrible, parce qu'il avait une minute de silence qui a duré peut-être 2 heures pour moi. Il était là, il a fermé les yeux, il était là assis, après il a ouvert les yeux, il a dit « Hélène, vous devez annuler ce concert. » Je dis « Maître, pourquoi ?» Cet orchestre, cet chef d'orchestre est médiocre. Et la médiocrité est contagieuse. Voilà. Bon, j'ai.
Et comment s'est passé le concert?
Ah, c'était superbe. Il chitarrino le suonerò.
Nous avons beaucoup parlé, Elena Bachkirova, de musique de chambre, bien
oui.
sûr, mais il y a tout votre travail avec les chanteurs et les chanteuses, qui est un pan incroyable, parce que vous nous avez dit, dès le début de cet entretien, votre attrait pour la voix, pour l'opéra, et c'est un fil conducteur tout au long de votre carrière. Alors,
d'abord, je dois dire une chose très importante. Je crois que chaque musicien, jeune ou n'importe quel âge, doit absolument faire ce parcours de aimer, mais en tout cas connaître l'opéra et connaître les voix. Parce que pour jouer Mozart, par exemple, c'est absolument nécessaire de connaître son opéra. On ne peut pas jouer un concerto de Mozart ou une sonate ou tout ça sans savoir Ces opéras, surtout ces opéras italiennes, mais aussi la flûte magique, mais surtout le Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni, parce que toutes les caractérisations, les situations, les caractères qu'on trouve là-bas, on doit apporter dans la musique instrumentale.
C'est une nécessité.
Nécessité, absolument. Mmh. Et quand on joue Mozart, quelqu'un qui joue Mozart sec et sans beaucoup d'esprit, on sait que cette personne-là, il n'a jamais entendu Figaro, par exemple. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les ensembles, quelles sont les intrigues, quelles sont les situations ou quels sont les caractères, pourquoi Kérubine est comme ça et pourquoi on peut chanter différemment. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi pour nous, les instrumentalistes, de travailler avec les chanteurs, c'est quelque chose d'apprendre, de jouer legato, par exemple. Oui. Le phrasé lié à la respiration. La respiration du chanteur et aussi le phrasé lié aux mots.
Donc exemple, la langue. On revient à la question de la langue.
On revient sur la langue. Ça veut dire que le phrasé en allemand est différent qu'en français ou en italien. Et dans la musique aussi. C'est très important pour moi. J'ai appris énormément. D'ailleurs, je sais par exemple que si le chanteur chante legato ou par exemple même grand intervalle, jamais il va aller au forte. Il va toujours arrondir en haut. Alors, si je serais capable de dire, il faut, tout le monde doit absolument au moins écouter beaucoup, si on n'a déjà pas travaillé, mais écouter l'opéra, écouter de savoir comment on peut attendre cette, vraiment la respiration, c'est ça.
Alors, on pourrait parler d'Anna Netrebko, bien sûr, parce que vous êtes géniale, partenaire de scène, bien sûr, beaucoup d'autres, donc évidemment, on ne peut pas parler de tout le monde, mais peut-être d'elle pouvons-nous parler.
J'ai appris énormément d'elle. Mm-hmm. D'abord, j'avais l'impression que je vais être vraiment... la voix est une telle force, mais la force de beauté, c'était comme un ouragan qui m'a vraiment amené avec moi. J'étais complètement partie avec elle. Et après, elle m'a donné l'appétit de faire la musique russe. Parce que avec elle, j'ai fait le programme de Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, avec le Tchaïkovski. Grâce à elle, j'ai commencé à regarder ces pièces de Tchaïkovski que j'ai appris après avec les saisons. Et c'était elle. Elle m'a vraiment, c'est comme le retour aux origines.
Oui.
Quand j'ai passé, je vous ai raconté qu'à conservatoire, je n'avais pas envie. Voilà. Et alors, elle est vraiment, c'est une grande, grande, grande musicienne, énorme chanteuse qui sait tout faire. Et alors, si on entend sa voix et si on veut essayer de faire une, peut-être, illusion sur le piano, de faire les phrasés comme elle, si on entend même une centième de ça, ça c'est déjà beaucoup. Mais j'ai fait aussi beaucoup de choses avec, par exemple, quelqu'un comme Robert Hall. J'ai fait une grande partie du répertoire allemand, de Schubert, de Wolf, Brahms.
La basse allemande, Pape.
Pape, bien sûr. Mm. Magnifique, magnifique. On ne pense pas même à quel point il est bien dans le lead aussi, dans l'opéra, bien sûr. Non, non, il y a beaucoup. J'ai vraiment énormément. Je fais toujours avec les nouveaux que je trouve. C'est génial.
Песня птички несёт в небеса. А чего надо мне лететь? А где мой любимый?
France Musique, les grands entretiens d'Elena Bashkirova.
Êtes-vous tous les jours à votre piano, Elena ?
Pas tous les jours. Non, mais normalement, quand il y a possibilité. Vous savez, c'est intéressant. Quand on retourne à notre enfance, et j'ai pas beaucoup travaillé, j'étais paresseuse, j'ai voulu faire d'autres choses.
Il y avait quand même 6 heures de piano par jour.
Jamais fait 6 heures. Vraiment. Je pense que j'ai jamais fait 6 heures. J'avais peut-être 1h30, quelque chose comme ça, 2 heures. Jamais. Non, c'est pas la question de combien d'heures. Mais là, maintenant, dernières années, j'adore travailler le piano. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps qu'il me faut pour apprendre beaucoup de choses. Et là, maintenant, je dis, ah, quel dommage que j'avais pas, à l'époque, je savais pas que j'aurais besoin de ça. Non, parce que le répertoire d'apprendre des choses, j'ai pas appris autant que je voudrais maintenant. Mais maintenant, moi, le plus grand plaisir que je peux avoir maintenant, de rester à la maison le soir, quand le téléphone ne sonne plus, on n'a plus vraiment besoin de faire les choses, toute seule avec le piano et de travailler. Et là, c'est vraiment c'est le plus grand plaisir que je peux avoir.
Quelle partition ouvrez-vous à ce moment-là ?
Demain, je dois ouvrir la partition de mon récital. Je joue le récital maintenant dans 2 semaines et aussi le concerto de Schumann et le récital qui est aussi Schumann d'ailleurs. Ouais.
Un fil conducteur aussi.
Fil conducteur avec Mozart. Ça, c'est mes deux boyfriends.
Votre dernier enregistrement m'a beaucoup surprise, Elena Bashkirova, puisqu'il s'agit d'Anton Dvorak.
Oui.
Donc évidemment, vous nous avez parlé de musique allemande,
c'est ça.
Mozart, votre Schumann et Schubert sur scène.
Oui.
Mais là, c'est Dvorak qui vous a préoccupé ces dernières années.
Ah oui, c'est vrai que ça s'est passé. Quand j'ai fait le disque de Tchaïkovski, j'ai joué beaucoup
les saisons
concert,
de Tchaïkovski.
Exactement, les saisons de Tchaïkovski. Et jouer beaucoup, ça faisait du bien. Et après... Bon, j'ai joué partout, il fallait. Et j'ai voulu avoir un autre projet, quelque chose qui est très personnel. J'ai joué beaucoup, comme on dit, Mozart, Schumann, ça. Mais j'ai cherché un projet spécial, quelque chose qui n'est pas joué à mort partout, mais quelque chose qui j'aime. À cette époque-là, je me rappelle, j'ai entendu dans le concert Mavlas de Smetana et j'étais très éblouie par ce langage. Ce n'est pas la musique allemande, ce n'est pas la musique russe, c'est entre les deux. Et cette musique tchèque, il y a quelque chose de très spécial. Un de ces soirées, seule à la maison, j'ai commencé depuis mon placard de musique. J'ai essayé ça, je regardais par-ci, par-là. Et j'ai trouvé Smetana, mais je n'ai pas trouvé quelque chose pour piano. Il a écrit énormément de polkas qui sont très virtuoses, très beaux, mais difficiles. Mais ça ne m'a pas pris. Mais il y avait Dvorak. J'ai pris Dvorak et tout d'un coup, j'ai vu une partition qui n'était même pas ouverte, qui... s'appelait le poétique Stimmungsbild, ça veut dire que le tableau
poétique.
Impression poétique. Opus 85, je ne connaissais pas du tout, j'ai ouvert la partition, j'ai commencé à jouer et au bout de 5 minutes, je tombais amoureuse de cette musique et que je ne connaissais pas, mais ça semble, vous allez l'écouter aussi, ça semble quelque chose qu'on connaît, mais pas vraiment. C'est un langage qu'on connaît. Ça ressemble un tout petit peu, bien, ici à quintet, ici à symphonie, tout ça. Mais c'est tout à fait spécial. Et j'étais surpris de, comme ça, trouver quelque chose qui n'est pas connu. Moi, je n'ai pas connu. Personne dans mon entourage n'a connu ça. J'ai demandé à un musicien ou à un musicologue, personne ne connaît ça. Et c'est absolument incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'une grande beauté. Il y a cette musique pour l'âme. Incroyablement intéressant, incroyablement belle, elle est sincère, elle est très mélancolique, aussi très virtuose. Il a 13 pièces là-bas, et c'est ça. Et alors j'ai appris, j'ai commencé à jouer ça dans les concerts, et c'est quelque chose qu'on trouve nouveau. C'est tellement rare pour nous. On ne trouve jamais quelque chose, parce qu'on pense qu'on sait tout, on joue tout, et tout d'un coup, on a trouvé un tel trésor. Alors, je suis tellement contente que je pouvais enregistrer ça, parce que comme ça, les gens vont quand même connaître ces pièces. Je pense que ça doit devenir vraiment le grand répertoire, ces pièces.
Elena Bashkirova, je vous ai beaucoup questionnée sur le passé, excusez-moi, mais l'avenir, tout est ouvert.
Ah, le passé, j'aime beaucoup le passé, et l'avenir, il y a plein de choses, il y a les projets, vous savez, c'est là maintenant, surtout à ce temps, on vit des projets futurs, et on espère que les projets futurs vont se passer. Il y a quelques mois, on m'a demandé si je voudrais bien devenir présidente de la fondation Mendelssohn à Leipzig, et je suis allée à Leipzig, j'ai vu la maison de Mendelssohn qu'ils ont restaurée en merveille. C'est là qu'on a l'impression que Mendelssohn, sa sœur Fanny, Clara Schumann, Robert Schumann, tous ces gens qui habitaient à Leipzig, qui était la capitale musicale du 19e siècle en Allemagne, étaient là. Alors, moi, je vais faire ça maintenant et je vais pouvoir peut-être donner encore un coup de pouce pour cette maison et pour cette fondation de devenir plus internationale, d'amener aussi les gens de grande qualité, les musiciens, faire la musique là-bas, mais aussi voyager pour eux, de faire les choses pour eux. Je pense que Mendelssohn, c'est un compositeur qui a vraiment... On joue beaucoup, mais toujours les mêmes choses. Il y a énormément de compositions de Mendelssohn qu'on ne connaît pas. Alors, un tout petit peu de faire plus de ça, mais aussi d'avoir la possibilité de faire les concerts là-bas, d'amener les jeunes de jouer là-bas. Et, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de moi, pourquoi c'était moi, mais j'imagine c'est à cause du fait que moi, je peux connecter aussi. Alors, ce projet est très, très beau. Et je suis très contente que ça vienne maintenant. Je vous ai plein d'idées maintenant déjà là-dessus.
C'est avec l'octuor à cordes de Félix Mendelssohn et tous les amis d'Elena Bashkirova que se referme ce cinquième et dernier épisode des grands entretiens dédiés à la pianiste que l'on remercie pour sa disponibilité. Vous pouvez à présent réécouter et télécharger toute la série sur francemusique.fr. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Flora Sternadel pour la préparation, François Rivalan à la prise de son, Claude Nior au mixage et Christine Amado à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.